Avec deux grands sujets cette semaine, le président de la République a prononcé un discours devant l'Académie des sciences qui célèbre ses 350 ans. Pour autant, les liens entre pouvoir public et l'univers de la recherche en France sont pour le moins distendus depuis de nombreuses années. Et puis, nous évoquerons également cette première avec la naissance d'un bébé né avec du matériel génétique issu de trois parents. Quelle politique de la recherche en France et quelles limites aux manipulations génétiques? Ce sont deux des problèmes qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et vous nous suivez à l'antenne, vous pouvez nous suivre comme chaque jour également en direct sur Twitter, @laméthodefc. Et pour évoquer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique aujourd'hui Sophie Kouane. Bonjour Sophie.
Bonjour, bonjour à tous.
Directrice de la rédaction du magazine La Recherche, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Et nous sommes également avec Léo Grasset. Bonjour Léo.
Bonjour.
De passage à Paris, auteur de la chaîne YouTube Dirty Biology. Mais pour commencer, avant de traiter les sujets que j'évoquais dans la présentation, comme chaque semaine, on fait un point complet sur l'actualité des sciences et de la recherche dans le journal des sciences de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Nicolas.
Le journal des sciences.
Et pour commencer, Xavier, c'était à 12h40, tout à l'heure de Paris, la sonde Rosetta s'est écrasée en douceur à la surface de la comète Chury.
Oui, une fin en beauté pour 20 ans de programme et 12 ans de voyage, 7 milliards de kilomètres parcourus pour cette sonde qui a déposé, souvenez-vous, l'année dernière, le robot Philae sur la comète Chury. Donc, comme la comète et la sonde Rosetta qui est en orbite autour s'éloignent du Soleil, la puissance de ces panneaux solaires diminue, donc les scientifiques avaient programmé son crash sur la petite tête de la comète. Crash, en fait, assez lent, au pas d'un homme, avec tous les instruments en action. Le résultat, en tout cas, ce sont les images les plus précises jamais prises d'une comète à ce jour. Écoutez l'astrophysicien Francis Rocard, c'est le responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, notamment de Rosetta.
Moi, je pense qu'il y aura un avant et un après Rosetta. L'essentiel de ce que nous savons des comètes vient de la mission Rosetta aujourd'hui. On a fait des progrès absolument considérables sur le fait que cette comète n'est pas le résultat d'une comète qui s'est détruite et réagglomérée. Ça, on peut démontrer que la comète est relativement homogène. Donc, elle est extrêmement primordiale. Et notamment probablement constitué de cométésimaux de quelques mètres de taille. Et ça, c'est des éléments tout à fait nouveaux. Par ailleurs, on a trouvé de la glycine, qui est une molécule extrêmement intéressante, puisque c'est une molécule prébiotique, et que maintenant, on peut démontrer que, avant même que les comètes se forment, ce type de molécules se sont formées dans des grains de glace par l'irradiation par des ultraviolets d'étoiles proches. Et donc, tout ça est tout à fait fascinant sur l'histoire des comètes et le lien entre le matériau cométaire et l'apparition du vivant sur Terre.
À Francis Rocard, qui était également l'invité de la méthode scientifique de mardi, si vous êtes incollable sur les comètes, sur les astéroïdes, réécoutez à l'envi cette émission. Vous pouvez la podcaster sur le site franceculture.fr. Autre information, Xavier, la NASA avait entretenu le suspense d'une annonce importante en début de semaine. Il y a peut-être de l'eau sur Europe.
Oui, Europe, un des satellites de Jupiter. Donc l'agence spatiale américaine a publié une de ses photos qui montre le satellite gris clair, irisé de bandes oranges. Et puis au sud-ouest, une sorte de nuage bleuté. C'est bien un jet de vapeur d'eau, en fait un geyser d'environ 200 km de hauteur. Donc confirmation de liquide après de précédentes observations au télescope en 2012 et par la sonde Galileo. Cette fois, les scientifiques ont eu le temps d'observer directement le phénomène aux ultraviolets dans la durée, 10 fois en 15 mois. En fait, dans l'atmosphère de Jupiter toute proche elle-même, une équipe française avait observé de la vapeur d'eau après le crash d'une comète. Thibaut Cavalier en faisait partie. Il est chargé de recherche aujourd'hui au CNRS, au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de Paris.
Europe, tout comme Ganymède, sont des cibles privilégiées par l'Agence spatiale européenne, mais également la NASA, puisqu'on parle d'études d'habitabilité. Et donc, les États-Unis vont lancer leur mission pour aller étudier Europe au début des années 2020. C'est la mission Europa Clipper qui va faire plusieurs survols d'Europe. qui portera même peut-être un atterrisseur qui viendra se poser sur Europe. Et donc l'idée est de traverser ces potentiels geysers pour en analyser la composition par des expériences de spectrométrie de masse. Et avec la mission JUICE, l'Europe veut faire la même chose autour de Ganymède, puisque pour la première fois, on se mettra en orbite autour de Ganymède à la fin de la mission JUICE. Et donc les objectifs en termes d'études d'Europe et de Ganymède sont évidemment un caractère exobiologique, puisqu'on veut étudier l'habitabilité d'Europe et de Ganymède, donc en essayant de caractériser la composition de l'eau qui serait sous la couche de banquise de ces deux lunes. Est-ce que c'est de l'eau salée? Y a-t-il des molécules organiques? Il y a un deuxième enjeu qui est très important, c'est comme on peut avoir accès, grâce à ces éjecteurs, à la matière qui vient de l'intérieur de ces lunes, on a accès à de la matière qui est issue de la formation de ces lunes. Donc ça permet de comprendre la formation d'Europe, de Ganymède, et plus généralement parlant du système de Jupiter et du système solaire.
En bref, Xavier, le plus gros radiotélescope au monde est maintenant chinois.
Oui, un radiotélescope entré en service dimanche dernier dans le sud-ouest de la Chine. Composé de 4450 panneaux réfléchissants, des tours de 100 mètres de haut, le télescope est surnommé FAST pour 500 Meters Aperture Spherical Radio Telescope en raison de son diamètre de 500 mètres, soit 200 de plus que celui d'Arecibo à Porto Rico. Alors pour l'instant, l'instrument géant qui permet de capter des ondes radioélectriques est en phase de test pour le programme de recherche. Pas encore question officielle de rechercher de la vie extraterrestre. Selon l'agence Chine Nouvelle, il s'agit surtout de doubler le nombre de pulsars connus. Il aurait d'ailleurs déjà reçu un signal. Et puis aussi, il y a la recherche d'ondes gravitationnelles pour espérer des avancées majeures sur la relativité générale d'Einstein.
Deuxième sujet du jour, Xavier. Un papa, deux mamans, il n'y a pas mieux pour un enfant.
En effet, un enfant né au Mexique grâce à une équipe américaine, né il y a maintenant 5 mois, mais on l'apprend cette semaine. Alors, on connaissait la fécondation in vitro et les mères porteuses. Il s'agit ici d'une autre méthode de PMA, procréation médicalement assistée, une méthode essentiellement génétique. On pourrait l'appeler PMA préventive, puisqu'il s'agit d'éviter la transmission de certaines maladies génétiques graves, notamment celles qui affectent l'ADN de la mère. Il faut donc contourner le problème dès la fécondation par une technique qu'on appelle de transfert nucléaire, interdite aux États-Unis. Pour l'instant, en fait, seul le Royaume-Uni l'autorise depuis 2014. Le médecin a donc pris 2 ovocytes différents, un de la mère, un d'une autre femme. Il a retiré le noyau de l'ovocyte défectueux de la mère pour le replacer dans l'ovocyte de l'autre femme. Il a fécondé in vitro ces nouvelles ovocytes avec le sperme du père pour réimplanter le tout dans l'utérus de la mère. Donc la presse s'enthousiasme, une partie de la communauté scientifique est cependant plus réservée. La viabilité des enfants pose question. Il a fallu 4 ovules fécondées non viables pour arriver à ce résultat. Écoutez Julie Stéphane, elle est généticienne à l'hôpital Necker et elle participe justement à un programme de recherche sur le sujet.
Il n'y a pas beaucoup d'alternatives et ce transfert nucléaire, c'est une réelle alternative pour eux. Néanmoins, il pose effectivement des questions médicales, mais comme toutes les nouvelles techniques de procréation médicalement assistée, hein, c'était vrai pour la fécondation in vitro il y a 30 ans, et finalement, la seule chose qui pose un peu question dans cette histoire, c'est que finalement, c'est un enfant qui a été conçu dans un pays qui n'est pas le pays des parents, par un médecin qui ne travaille pas dans ce pays, et donc on se dit, mais qui va suivre cet enfant au final, qui va s'assurer qu'il n'y a pas de problème développemental? Non, je pense que les questions que cette technique pose, elles ont été bien évoquées par la Grande-Bretagne et c'est pour ça qu'ils ont fait ce protocole d'étude, en fait, en application clinique, mais avec un certain nombre de garde-fous qui vont être effectivement la surveillance des enfants nés après ces procédures.
Hein. Voilà, et on en reparlera tout à l'heure avec nos invités pour la table ronde d'actualité. Ce sera le deuxième sujet que nous traiterons tout à l'heure aux alentours de 16h30. En bref, Xavier, un 10e gène pour le virus du VIH.
Oui, ce sont des chercheurs du CNRS de l'Université de Montpellier qui l'ont annoncé mardi. En fait, un gène qui était soupçonné dès le décryptage du génome en 1985, mais dont l'existence n'avait jamais été confirmée jusque-là. Un gène nommé ASP, car il est lié à l'activité de copie de l'ADN du virus, antisens donc. Cette fois, une nouvelle technique d'analyse qu'on appelle bioinformatique a permis de comparer plus de 23 000 génomes de virus qui infectent à la fois le singe et l'homme. Le but était en fait de cibler ce gène finement et d'en étudier l'évolution et sa capacité de conservation au fil des sélections. Or là, c'est la découverte. Non seulement ce gène est historiquement lié à la transmission de la maladie du singe à l'homme et donc il est lié à la pandémie humaine. Et puis, les constats et simulations informatiques montrent aussi une capacité de résistance très importante. Le gène ASP serait donc un gène favorisée, donc peut-être très utile au virus. Il pourrait correspondre à une fonction essentielle, d'où l'intérêt pour la lutte contre ce virus qui a tué l'année dernière encore 1 100 000 personnes. Un chercheur disait, un gène de plus, c'est une cible thérapeutique de plus.
Et pour finir, Xavier, par la rubrique des sciences improbables du jour, on peut apprendre à lire aux pigeons.
Ah oui, le processus d'apprentissage de l'orthographe chez les pigeons. C'est le titre surprenant d'une étude de l'Académie des sciences américaines. L'étude porte sur 18 pigeons. Étudiés pendant 8 mois, les chercheurs ont entraîné ces pigeons à faire la différence entre des séries de 4 lettres et puis des séries aléatoires et des séries signifiantes, donc de mots. Les volatiles ont appris entre 26 et 58 mots chacun. Ils pourraient aussi repérer les fautes d'orthographe. Ce serait donc une autre application utile quand on pense qu'au cours de l'histoire, on a surtout utilisé la capacité visuelle directe des pigeons. Ils ont servi par exemple à porter les messages sur les champs de bataille, c'est connu. On a voulu leur faire repérer les épaves et les corps en mer. On a même essayé de leur faire guider les missiles vers les avions.
Et bien apprendre l'orthographe avec les pigeons, à corriger les fautes d'orthographe, voilà un programme pédagogique intéressant pour les écoles primaires. Merci Xavier.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et on reviendra tout à l'heure, je vous le disais, sur certains des éléments de ce journal des sciences. Mais pour commencer, donc, nous sommes avec Sophie Kouane, directrice de la rédaction du magazine de la recherche, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, et Léo Grasset, auteur de la chaîne YouTube Dirty Biology. Pour commencer donc cette semaine, il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel en France. Le président de la République s'est intéressé aux sciences. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, bien sûr, mais tout de même, un discours présidentiel sur les sciences et sur la recherche, c'est assez rare, disons. François Hollande a pris la parole mardi, c'était à l'auditorium du Louvre, devant un parterre international d'académiciens et d'académiciennes des sciences, à l'occasion des 350 ans de notre Académie des sciences à nous. Écoutez-le.
Nos sociétés sont minées par les doutes constamment entretenus sur les données de la science et par les affirmations péremptoires de prétendues évidences jamais démontrées. J'y ajoute l'équivalence des opinions, au point de confondre parfois celles des savants et celles des charlatans. Prenons quelques exemples. Le réchauffement du climat, une exagération. L'évolution des espèces, une fable. Le sida, une punition. La délinquance, une fatalité génétique. Il en est même qui s'interroge encore sur l'expansion de l'univers ou son caractère infini. Tout est perpétuellement, si je puis dire, mis en question.
Voilà, François Hollande devant l'Académie des sciences mardi dernier. Olivier Lascar, vous avez suivi cette cérémonie pour Sciences et Avenir. Quelles ont été les réactions des académiciennes et des académiciens à ce discours?
Je dirais que les réactions des académiciennes et des académiciens ont été très feutrées. Le président a reçu des applaudissements nourris qui correspondent à sa fonction. Et à son titre, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que président de la République, il est aussi protecteur des académies. Et c'est aussi pour cela qu'il est venu faire ce discours. Après, les réactions, elles ont été bien différentes sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Puisque justement pour Sciences et Avenir, moi je faisais un live tweet. Enfin, je relayais les principales déclarations du président sur mon fil Twitter. Et je peux vous dire que du côté de la communauté des chercheurs, ça a réagi abondamment. Et pas dans le bon sens, en tout cas du point de vue du président.
C'est-à-dire, par exemple, quelques mots, quelques extraits de ses réactions que vous avez en tête?
Disons que le président s'est ému du fait que la France manquait, disait-il, d'enseignants, de chercheurs, que le goût de la science n'était pas inculqué suffisamment tôt dans les jeunes esprits, des affirmations de cet ordre-là. Le problème avec ce discours, je dirais, c'est qu'il y a eu un seul discours, mais il y avait deux façons de l'entendre. La première façon, c'est que clairement, c'était un discours de campagne électorale. C'est-à-dire que le président Hollande a ciblé, sans le nommer,
Adversaire politique.
Son adversaire préféré, qui est Nicolas Sarkozy, et dont on se souvient qu'il y a quelques jours, dans le magazine Marianne, Nicolas Sarkozy disait « Il faut avoir la vanité de l'être humain pour penser que justement, l'être humain est responsable du réchauffement climatique. » Donc, il se posait là dans le rang des climato-sceptiques. Il se pose dans le rang des climato-sceptiques désormais. Et le président Hollande lui a adressé une forme de réponse en expliquant qu'aujourd'hui, ont constaté cette mise en question permanente de la parole des chercheurs. Toutes les paroles ne se valent pas en science, c'est ce qu'il a expliqué, et il a raison de le dire. Donc il a été très dynamique, ce discours-là était très bon. Mais après, il y avait le discours d'un homme qui est quand même en exercice depuis 4 ans, et là, ses auditeurs, en tout cas les chercheurs, et ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux, ont vécu un vrai décalage, un vrai clivage, pour utiliser un mot à la mode, entre la réalité et la restitution quand vous êtes le président Hollande.
Quand vous dites, Olivier Lascar, que le président a déploré le manque de chercheurs, le manque d'enseignement des sciences, ça vous fait sourire, Léo Grasset. Pourquoi ?
Non, mais moi, j'ai pas vraiment d'expertise sur la question. J'ai même arrêté la recherche pendant la thèse, en fait. Mais c'est rigolo parce que là, j'ai cette vision. Tous mes potes sont des thésards et tous mes potes doivent partir à l'étranger pour espérer avoir un travail dans la recherche. Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu rigoler.
Ce qu'il y a dans ce discours, ce qu'on entend, et c'est ce que vous venez de dire, Olivier, c'est que c'est un discours avant tout politique et finalement assez peu scientifique, Sophie Kouane. C'est pas un discours scientifique, c'est pas un discours qui prend à bras le corps les problématiques scientifiques ou de la recherche en France.
Non, pas du tout. Alors, on a de la chance, il a quand même évoqué à la fois la recherche appliquée avec les pôles de compétitivité, etc., et la recherche fondamentale, et je pense que les chercheurs, ils devaient être bien contents de l'entendre, parce que c'est là où le bât blesse. La semaine dernière, le CNRS et l'INSERM ont annoncé la publication prochaine d'un livre blanc sur les sciences du vivant et une énorme somme de contributions de plus d'une centaine de chercheurs en sciences du vivant en France qui se sont tous mobilisés pour montrer l'enthousiasme qu'ils ont à chercher en sciences fondamentales et l'intérêt que ça a pour les découvertes futures. Ce livre-là a été très clairement écrit comme un appel à l'aide au président de la République et aux futurs candidats pour qu'ils maintiennent une recherche fondamentale de qualité, avec des fonds de qualité.
On en a parlé ici la semaine dernière, et on entendait d'ailleurs Alain Fuchs, le président du CNRS, qui est sur la même ligne, hein, puisque lui dit qu'effectivement, il déplore qu'en cette période, et ce livre ne tombe pas tout à fait par hasard dans le temps, il tombe en période préélectorale, et il déplore que la science, la recherche, ne soit des enjeux pour personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parler de science ou parler de politique de la recherche en France, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas les politiques, il n'y a aucun plan.
Enfin, regardez, Nicolas Sarkozy a lancé son brûlot sur le réchauffement climatique et le fait que l'homme ne soit pas forcément impliqué dedans. Il n'y a pas un politique qui a repris, si ce n'est en disant « Oh là là, voyez, il est climato-sceptique ». Le débat ne s'est pas du tout positionné sur le débat scientifique, là encore. Et on est très vite parti sur nos ancêtres les Gaulois et on est passé à autre chose encore, et à la question de l'identité, etc. C'est-à-dire que là, on avait une accroche pour parler de science, typiquement, qui est un sujet en plus sur lequel la France s'était un peu positionnée avec la COP21, et ça a fait un flop total.
On a une classe politique qui est assez déconnectée des préoccupations scientifiques, hein, on ne peut que le constater. Par rapport à la science fondamentale, peut-être les chercheurs seront-ils entendus, parce que pendant son discours, François Hollande a célébré la science fondamentale, sans laquelle rien ne serait possible, et qui permet de faire éclore, des années après le début des travaux, des applications qui semblaient hors de portée de l'esprit au moment où on se lance. Donc il a vraiment... Il a déclaré sa flamme aux sciences. C'était la deuxième fois, moi, que je l'entendais personnellement sur cette longueur d'onde-là. Il y a quelques mois, il avait inauguré l'Institut Pierre-Gilles de Gênes à Paris, qui est un institut de microfluidique, alors qui est vraiment une thématique assez nébuleuse, il faut le dire, et dont les applications concrètes vont, de l'aveu même des chercheurs, tarder à se faire sentir, à se manifester. Mais il était venu, cet endroit va aussi servir d'incubateur à start-up, et il avait à la fois, à cette occasion, il avait déjà célébré la science fondamentale, en disant notamment, pour moi, je ne sépare pas la science de la culture. Bon, néanmoins, ils avaient cette déclaration il y a quelques mois, il y a celle-ci mardi dernier, entre les deux, c'est vrai qu'on... On entend l'écho de la question.
Il faut se souvenir, pardon, je vous redonne la parole tout de suite, Sophie, il faut se souvenir que l'année dernière, on a évité un drame de justesse, hein, puisqu'il y a eu une tribune signée par 7 prix Nobel et une médaille Fields pour poussé le gouvernement à renoncer à des coupes budgétaires dans le budget de la recherche. Je reviens vers vous, Léo, vous dites que vous avez beaucoup d'amis qui partent, et puis ça fait longtemps qu'on entend ce bruit de fond, hein, de dire que les jeunes thésards, dès qu'ils ont leur thèse, ils plient bagages, ils vont en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Il y avait au mois de juin dernier le neurologue Alain Prochian qui a publié une tribune dans Le Monde et qui dit « Nous risquons de perdre une génération de chercheurs ». Vous avez le sentiment, vous Léo, qu'il y a une génération qui est effectivement en train de partir de France, une seule génération ?
Ben, j'ai pas un aperçu complet de l'ensemble des thésards de France, mais en tout cas dans mon domaine qui est la biologie de l'évolution, c'est clair que c'est plutôt dans les pays anglo-saxons que ça se passe, ou en Suisse éventuellement, bon, voilà. Mais en France, il n'y a pas des masses de bourses, de toute façon, pour de thèse, pas des masses, donc... Bon, pas des masses de thésards et pas des masses de post-doc, etc.
Sophie ?
Oui, alors, à l'occasion de notre 500e numéro, l'année dernière, la recherche avait réalisé une enquête sur la fuite des cerveaux et la fuite des jeunes, justement, pour savoir si c'était quelque chose de concret ou pas. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'il n'existe pas de chiffres et pas d'enquête officielle. Notre journaliste a eu énormément de mal à trouver des chiffres. Donc, c'est quelque chose de très mal documenté, notamment au ministère de la Recherche, ce qui est un peu dommage. Le fait que les jeunes chercheurs aillent à l'étranger, ça fait, je dirais, partie de leur cursus, c'est même quelque chose d'indispensable. Ils ne reviendraient de toute façon pas en France sur un poste sans être passés par des bonnes équipes étrangères pour se former. Et par ailleurs, ce que notre enquête avait montré, c'est qu'une fois qu'ils avaient fait ce passage à l'étranger, souvent ils étaient demandeurs pour revenir en France, une fois leur bagage complété, et que, justement... pour la sécurité de l'emploi que leur proposaient nos organismes de recherche.
Il faut dire, pour revenir sur cette composante budgétaire qui est essentielle, hein, ce n'est pas que le nerf de la guerre, c'est aussi le nerf de la science. La France, le pourcentage du PIB consacré à la recherche en France, vous l'avez en tête, quelqu'un, Olivier Lascar, bon, il est autour de 1,5% par là. Il y a un objectif de 3% qui a été fixé pour les dépenses en R&D par une stratégie qui s'appelle la stratégie Europe 2020. Et Alain Prochian se disait dans cette chronique que justement, à force de ne pas abonder le budget de la recherche, pourquoi est-ce que la France, comparée aux autres pays, à divorcer, je ne sais pas, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, c'est à ce point-là désintéressé de sa recherche et de ses scientifiques, à votre avis, Olivier Lascar.
Bon, on a déjà évoqué le peu de goût qu'ont nos politiques pour la science du fait de leur formation. Hein, les énarques, les avocats, etc., ce sont pas des gens qui ont baigné dans les éprouvettes. Hein, donc voilà, ça les intéresse pas. Après, je pense que ce que les chercheurs d'aujourd'hui ne supportent plus, c'est le double langage. Par exemple, à propos des postes d'enseignants-chercheurs qui sont créés chaque année, je crois que c'est de l'ordre de 2000 postes qui seront annoncés chaque année par le ministère de l'Éducation. Après, ces 2000 postes, ils ne se traduisent pas par les faits, pas forcément. C'est-à-dire que dans les universités, on n'a pas les crédits pour les ouvrir, ces postes. Donc d'un côté, on a dans le ministère un discours disant « Regardez, on fait des efforts, 2000 postes de créer. » De l'autre côté, les universités disent « Nous, on n'a pas les sous, on ne peut pas répondre à ça. » J'ai un statisticien, un universitaire avec qui j'en parlais récemment, et il me disait « Oui, nous, on parle de la politique des chapeaux et des têtes. Du côté du ministère, on nous dit, oui, on a plein de chapeaux, voilà, il faut les remplir. Mais de l'autre côté, dans les universités, on n'a pas les sous pour payer les têtes qui vont remplir les chapeaux.
Il y a sur cette question vraiment de la spécificité de la France. En Allemagne, Angela Merkel préside, je crois, une fois par mois le conseil de l'équivalent de l'ANR, qui s'appelle la DFG en Allemagne. Donc voilà, la chancelière, s'intéresse donc de fait à l'actualité de l'Agence nationale de la recherche allemande. Le président Barack Obama, dont on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a un emploi du temps relativement tendu,
contraint
reçoit tous les vendredis soirs son conseiller spécial aux sciences. Enfin, ça n'a pas toujours été comme ça, Sophie, en France. On a eu une période avec un grand fleuron industriel, technologique, scientifique, le nucléaire dans les années 60. à quel moment, de quand date la rupture à votre avis?
Ça, c'est relativement récent, je dirais, deux ou trois présidences. Là, le désintérêt, il est flagrant. Fuchs le disait lui-même, imaginez que chaque semaine, le président puisse avoir un rapport sur la recherche ou les publications qu'on a faites dans la semaine. Pour un chercheur, c'est une motivation. Ça peut être
de
une
dire
motivation,
qu'il peut être
en tout
lu
cas,
par le président.
Oui, c'est une façon de montrer que le président s'intéresse. Le président a dit des grandes phrases, hein, nous avons des attentes immenses, dit-il auprès des chercheurs. Bah oui, d'accord, alors écoutez-nous. Écoutez-nous parler de des recherches et des résultats extraordinaires qu'on a. Quand est-ce que François Hollande, à l'étranger, ira parler de la recherche fondamentale française, qui est une des meilleures au monde? L'école mathématique française est une des meilleures au monde. La recherche sur le sida en France est une des meilleures au monde. On a encore eu un exemple, là, cette semaine.
On
comme
en
vous,
parlait dans
vous,
le journal
voilà,
des sciences, avec, ouais, sur le dixième gène.
Sur le dixième gène découvert en France. Voilà, on attend de nos politiques... S'ils ne s'intéressent pas en profondeur à la recherche, ce qui est dommage, qu'au moins ils en fassent la promotion. Et qu'ils ne fassent pas uniquement la promotion de la recherche appliquée. Parce qu'on le voit à la recherche fondamentale, et on le voit avec CRISPR-Cas9, qui est une grande révolution en génétique, et qui a été mise au point en partie par une chercheure française,
Emmanuelle. On attend avec impatience les prix Nobel
voilà,
la semaine prochaine.
Il a fallu 20 ans de recherche fondamentale avant d'arriver à cette application qui est maintenant dans tous les labos de génétique du monde. Oui. Voilà, mais 20 ans de recherche fondamentale avant. Donc on attend effectivement...
Vous pensez, Olivier Laxière, que Sophie a raison, c'est-à-dire que les politiques attendent de la recherche appliquée, c'est-à-dire quelque chose de concret, de technologique, qui puisse immédiatement amener à un progrès palpable, envisageable, budgétisable, et que la recherche fondamentale leur échappe complètement?
Oui, je pense cela, effectivement. On est aujourd'hui c'est la journée de Rosetta, puisque elle vient de...
Mais attention, elle s'est crachée.
Voilà, elle s'est crachée. Mais j'ai été
elle
surpris...
Elle s'est posée doucement.
Elle s'est posée doucement, ouais, grâce à la faible gravité de Tchoury. J'ai été surpris du peu d'utilisation que les politiques ont fait de l'aventure de Rosetta en France. Parce que c'est un programme européen, c'est une réussite quand même, il faut le dire, extraordinaire. Les Américains ne l'ont pas fait. Hein. C'est l'Europe qui fait ça. À une époque où l'Europe est dans une crise terrible, une crise de confiance, une crise de sens, l'aventure de Rosetta aurait dû être saisie à bras-le-corps par le président de la République actuel. Alors, il a appelé son chien Philae, c'est un peu court. Bon, c'est un exemple très particulier, j'ai trouvé assez parlant. Et alors juste un truc par rapport c'est vrai qu'on a du mal à dire quelle est la politique.
Ce serait quoi une politique de recherche ambitieuse selon vous trois? Qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y avait un geste à faire pour la politique, pour les chercheurs? C'est quoi? Plus de postes de recherche, augmenter le budget, arriver aux 3% du PIB, quelque chose, relancer un grand projet de recherche, je sais pas. Olivier Laskar, imaginons, donnons-leur les idées s'ils nous écoutent.
Mais des choses qui sont déjà beaucoup plus terre à terre peut-être. Il y a des carences en certaines formations en France. On manque d'ingénieurs, on manque de métiers dits de transformation, enfin qui ont un sens aujourd'hui, des métiers liés à la révolution numérique, des métiers d'aide à la personne. Et il faut des lieux pour les former. Les universités pourraient l'être ou peuvent l'être, mais il faut pour cela qu'on leur en donne. Les moyens, qu'on leur dise qu'il faut le faire, comment le faire. Ça n'est pas dit. Le seul élément concret, moi, que j'ai en tête par rapport à la politique actuelle, c'est au niveau de l'ANR, justement.
Oui, l'Agence nationale de la recherche.
Puisque François Hollande a fait des propositions, enfin des promesses, en tout cas assez concrètes, sur l'augmentation des allocations versées par l'ANR, puisque l'ANR est devenue, maintenant, il faut le rappeler, une source très très importante, sinon même prioritaire, de la recherche en France. Et au jour d'aujourd'hui, elle finance à peu près 10%. Il faut rappeler ce que c'est l'ANR, hein. Enfin, on est chercheur. On est chercheur, on a un projet, on s'agrège en équipe et on dépose un dossier à l'ANR. Et sur les... alors, il y en a un paquet, hein, je ne me souviens plus du chiffre, mais sur la masse de dossiers qui sont présentés, il y en a 10% qui sont choisis par l'ANR. Et l'ANR dit, ben voilà, je vais verser de l'ordre de 200 000 euros sur 3 ans à cette équipe pour qu'elle puisse mener à bien son travail. Alors, après, il faudra des aides complémentaires auprès de l'Europe, etc. Mais voilà, c'était 10%. Et là, François Hollande a dit que d'ici la fin 2012, ça allait être porté à 12,5 et à la fin 2017, à 20. Bon, mais à fin 2017, il sera peut-être plus là. Alors, ça engage qui ?
Sophie Coyne, une idée pour vous, pour de politique de recherche ambitieuse, quelque chose qui ferait un geste qui serait significatif pour les chercheurs, pour la science, la recherche et le développement en France.
Moi, je pense que rien qu'aligner les augmentations budgétaires sur celles de l'Allemagne, ce serait pas mal. On regarde souvent notre voisin qui est un sérieux compétiteur en sciences. Cette année, ils augmentent de 7% le budget de la recherche. Nous, voilà, ce sera 3%.
Il est sanctuarisé, mais le fait de le sanctuariser, ça veut dire qu'il recule.
Sanctuarisé, il a quand même fallu que les prix Nobel montent au créneau en juin pour garantir qu'ils soient sanctuarisés, parce qu'on voulait toucher à leur crédit. Donc oui, c'est sanctuarisé, mais il faut quand même vachement monter la garde.
Léo Grasset, une idée pour aider la recherche en France ?
Moi, ce serait un peu présomptueux de proposer un plan pour redresser la recherche, tout ça. Par contre, je pense qu'effectivement, ce que disait mon confrère, c'est que réussir à intéresser les politiques à la science, c'est peut-être en fait la base, le premier pas à faire, parce qu'aucun d'entre eux n'a de formation scientifique, ou alors ils sont très rares, et ils sont trop rares. Alors il y a peut-être deux choses à faire, soit envoyer des extraits de Science et Avenir
et de la recherche,
Matignon, tout ça, ou alors on peut inversement intéresser les scientifiques à la politique pour qu'il y ait plus de politiques qui fassent, de scientifiques qui fassent de la politique, et que du coup ils prêchent un peu pour leur paroisse. Parce que clairement, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il n'y a juste pas assez de personnes intéressées qui sont décideurs.
Plus que de former les enfants ou les citoyens, former les politiques à la science, les obliger à prendre des cours de science chaque semaine, pourquoi pas ?
I need a child into my middle. I need a child wide open. Under my skin, a little bone. A speaking tree is growing on me. With a red lipstick stuck on its bleeding. I'm in bloom into my middle. I'm in bloom into my heart.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
So fill it up, fill me up, be white child, make me move.
I need a child, je veux un enfant, c'est Olivia Ruiz qui chante, c'est le choix musical de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Il est 16h33, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture, vendredi, table ronde d'actu avec Sophie Coyne, directrice de la rédaction du magazine La Recherche, Olivier Lascar, rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir, et Léo Grasset de la chaîne YouTube Dirty Biology. Deuxième sujet que je vous soumets aujourd'hui, c'est donc ce bébé, I Need a Child, hein, ce bébé issu d'une fécondation in vitro avec le matériel génétique de 3 parents qui a défrayé la chronique cette semaine. Alors on va éviter, si vous le voulez bien, on va tenter en tout cas de ne pas nous jeter dans la rivière derrière le joueur de flûte de Hamelin. Il y a certes dans la conception de cet enfant 3 parents biologiques, mais tous ne sont pas exactement impliqués génétiquement, à parts égales. Léo Grasset, vous qui connaissez votre biologie sur le bout des doigts, je me retourne vers vous, vous allez nous expliquer pourquoi c'est pas exactement trois parents quand même, même si c'est un peu trois parents.
Bon, alors, chacune de nos cellules est composée de... Bon, les cellules, c'est des sacs avec à l'intérieur plein de trucs. Donc, on a le noyau dans lequel il y a l'ADN qui nous constitue, qui nous définit en partie. Et puis, il y a des petits organites, donc des tout petits trucs, qui s'appellent des mitochondries, et ces mitochondries ont pour fonction, entre guillemets, de transformer la nourriture qu'on mange en énergie qui est exploitable par la cellule. Et en fait, ces mitochondries, pour pouvoir fonctionner, elles ont elles aussi un ADN, qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et donc, l'un de ses parents, en fait, donc, quand il y a cette opération où il y a trois parents, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève, le noyau de la personne qui va être donatrice de ces mitochondries et on remplace le noyau par celui des parents.
Puisque c'est les mitochondries, en l'occurrence, qui sont défectueuses dans cette maladie précise.
C'est ça. Donc, en fait, oui, effectivement, il y a trois parents, mais il y a une des trois personnes qui ne donne que ces mitochondries et les mitochondries comptent pour, disons que c'est une sorte de batterie, mais on ne va pas considérer que c'est constitutif de l'ensemble de l'ADN. C'est une tout petite ADN qui est circulaire d'ailleurs, tout petit, avec 37 gènes, je crois, par rapport à l'ADN du noyau qui en contient 20 000 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout petit.
Sophie Kouane ?
Oui, effectivement, c'est une petite portion d'ADN, mais une portion d'ADN qui cause quand même pas mal de maladies. Il y a une personne sur 8000 qui est porteuse d'une maladie liée à ces petites mitochondries-là, donc c'est pas rien. Là, dans le cadre de la maladie à laquelle essaye de faire échapper ce couple à leur enfant, une personne sur 36000. Ils ont perdu deux petites filles juste avant.
Et c'est pour ça qu'ils ont eu recours à cette technique.
C'est la raison pour laquelle ils ont... Ils cherchaient à avoir un enfant biologique, donc à garder l'ADN de la mère, à garder les caractéristiques anatomiques de la maman qui sont préservées dans le noyau qui est conservé, parce qu'effectivement l'ADN qui est contenu dans ces petites mitochondries et qui viennent de la donneuse ne laisse pas de traces entre guillemets physiques, pas de caractéristiques qui seraient visibles chez l'enfant. Enfant qui est un petit garçon,
et
c'est fait pour.
Voilà, pour que ça s'arrête, puisque la mitochondrie ne peut se transmettre que
par la mère. Donc on se dit que le petit garçon ne transmettra pas ses mitochondries s'il en a quelques malades. Du reste, on a découvert 1% de gènes malades chez ce petit garçon quand même.
Alors Olivier Lascar, pourquoi est-ce que ça émeut à ce point-là la communauté scientifique internationale et l'opinion française, particulièrement l'opinion publique française qui a été très sensible à ce sujet ?
Il y a peut-être d'abord une raison, je dirais, un petit peu symbolique, parce que cette technique qui consiste à enlever le noyau d'un ovocyte pour le placer sur un autre ovocyte qui lui-même a été dénucléé, ça évoque un petit peu une forme de clonage, et notamment le clonage de Dolly. C'était la technique qui avait été employée par Dolly. Donc,
dans l'imaginaire collectif...
Voilà, on est très rapidement au meilleur des mondes d'Huxley... Tout ça fait une mayonnaise qui est un petit peu néfaste, négative. Bon, l'autre, il y a des raisons plus concrètes, si je puis dire. On a dit, il n'y a pas eu d'essai clinique avant. Ils se sont lancés dans cette aventure directement, sans avoir préalablement évalué les risques que pouvait avoir cette opération. Parce que les risques sont possibles.
Quel type de risque ? Voilà.
On a dit que les mitochondries étaient des petits organites à l'intérieur du cytoplasme qui portaient à peine, Léo, 1% de...
C'est rien du tout, oui, c'est 37 gènes, je crois.
En revanche, certains scientifiques posent la question du dialogue, entre guillemets, que cet ADN mitochondrial peut entretenir avec l'ADN nucléaire. Dans le cas présent, on va avoir un ADN nucléaire qui sera composé du... papa et de la maman, et l'ADN mitochondrial viendra de la donneuse. Comment l'ADN de la donneuse
va dialoguer
avec l'ADN central ? Ça, c'est une vraie question, et la réponse n'apparaîtra qu'avec l'évolution de l'enfant. Donc c'est faire un pari sur son avenir qui est un petit peu osé.
Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal des sciences de Xavier Martinet, c'est que l'un des problèmes qui est posé par cette fécondation in vitro, c'est qu'elle s'est faite au Mexique, et on entendait tout à l'heure l'interlocutrice dire mais qui va suivre l'enfant?
Alors moi je me fais pas d'inquiétude, je pense que cet enfant va être suffisamment étrange pour la communauté scientifique et médicale pour qu'il y ait beaucoup de monde qui ait envie de le suivre. Ça, de ce point de vue, je me fais pas trop de soucis. Cela dit, rechercher à éliminer les maladies mitochondriales, c'est une recherche quand même qui est assez longue. Déjà en 2005, les Anglais donnaient l'autorisation à leur laboratoire pour travailler sur des techniques comme ça. Pas exactement la même. On va pas rentrer dans le détail.
Mais néanmoins, j'ajoute, Sophie, je rebondis là-dessus, la législation en Grande-Bretagne permet ce type d'opération depuis 2 ans.
Oui.
C'est-à-dire que ça les premiers bébés vont naître là dans les mois qui viennent.
Voilà, et c'est pas exactement la même technique. Là, effectivement, Dr Zhang a pris une technique un peu alternative.
C'est Newcastle, je crois. Hein,
voilà, donc en Angleterre, il s'agit de féconder, de faire 2 embryons, en fait. Un embryon, le papa et la maman biologique au départ. On fait ce premier embryon, on lui retire son noyau. Dans un deuxième embryon, on lui retire ses mitochondries, pardon. Et on crée un deuxième embryon avec le papa et la donneuse, et on fait ce transfert de noyau dans l'embryon sain de la donneuse. C'est pas la même chose. Il n'y a pas eu que des succès pour le moment.
Il y a eu une première vague d'essais dans les années 90, ça a été catastrophique. Hein.
Voilà, il y a eu des essais qui ont conduit à la non-viabilité des fœtus.
Parce qu'il y avait des mitochondries de la donneuse et de la mère, et que les deux mitochondries ensemble, ça ne fonctionne pas.
Je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment les mécanismes qui sont à la base de ces problèmes, parce que on est au début, en fait. On observe rarement dans la nature des gens qui ont des mitochondries différentes dans une même cellule, en tout cas qui ont des génomes différents. Je pense qu'on est encore en train de tâtonner.
Néanmoins, c'est quelque chose qui concernera un très petit nombre de couples. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de psychose encore à avoir. Le meilleur moyen pour le moment pour des familles d'éviter des maladies quand ils sont porteurs de problèmes génétiques, c'est le diagnostic préimplantatoire, qui restera, quoi qu'il en soit, la méthode la plus courante.
Olivier Lasca ?
Au niveau de l'éthique, et pour faire suite à ce que vient de dire Sophie, c'est que effectivement là, en l'état, cette technique, elle ne vise que des cas très particuliers, elle ne toucherait qu'un très petit nombre de couples, ceux qui sont composés par une future maman qui est porteuse de ces mitochondries à problème. En revanche, c'est une question que je pose, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à de nouvelles pistes de procréation? Ce à quoi je pense, c'est que il y a déjà des scientifiques qui essaient de redonner un coup de jeune, si je puis dire, à des ovocytes de femmes de plus de 35 ans pour leur permettre d'engendrer un enfant. Donc là, on est vraiment dans un scénario où on ajoute des mitochondries dans l'ovocyte d'une femme de plus de 35 ans pour lui redonner de l'énergie, puisque les mitochondries sont des petites sources, des petites batteries, des petites sources énergétiques. Enfin, c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais en gros, c'est un peu l'idée. Cette technique-là, elle permet de conserver le matériel génétique d'importance, celui du noyau, en l'insérant au milieu de mitochondries qui sont potentiellement
étrangères.
Frais.
Oui, enfin, plus fraîche.
Péchu. Et le marché, c'est un marché dont on sait qu'il est, il peut être florissant. Enfin, les femmes ont des carrières, elles entreprennent de faire des enfants plus tardivement. Ça peut concerner des femmes qui ont du pouvoir d'achat parce que c'est des cadres, Et ce sont des gens qui ont, c'est-à-dire, quand on a un désir d'enfant, on est prêt à aligner les sous.
La question que ça pose peut-être plus généralement, c'est est-ce qu'on entre dans une ère avec cette première FIV à 3 parents biologiques, est-ce qu'on entre dans une ère de ce que Jacques Testard, qui est le papa du premier bébé éprouvette, appelle la médicalisation à outrance de la procréation. Est-ce qu'on commence à arriver dans une zone grise où on peut commencer à jouer avec notre connaissance en génétique nos connaissances embryonnaires, si je puis me permettre, en la matière, pour commencer à trafiquer un peu les règles du vivant, Léo Grasset ?
Je pense que oui, la réponse est complètement oui. Alors peut-être pas forcément en s'amusant à implanter des mitochondries ici et là, mais tout à l'heure vous parliez de CRISPR-Cas9. À mon avis, ça va plutôt se faire comme ça. Il va au départ peut-être y avoir des petites modifications du génome chez les embryons, histoire de vérifier qu'il n'y a pas trop de maladies.
Redisons, CRISPR-Cas9, c'est ce petit ciseau génétique qui permet de couper, de remplacer les gènes à l'envi, disons.
Voilà, c'est vraiment la grosse révolution dans le domaine des biotechnologies depuis 2014 même. Donc bref, je pense qu'effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'abord des petits pas dans le traficotage, on va dire, mais c'est un terme qui est peut-être un petit peu péjoratif, mais en tout cas dans la modification des embryons pour vérifier qu'ils soient en bonne santé. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, la porte sera complètement, pas grande ouverte, elle sera complètement défoncée au bulldozer.
Vous pensez qu'on peut arriver si rapidement que ça à aller directement jouer au ciseau dans le matériel génétique des embryons, Sophie
Kouane ? Alors, jouer au ciseau dans le matériel génétique des embryons, on commence déjà à le faire et c'est pas au point et c'est pas. Il y a beaucoup de pays qui refusent de le faire encore et beaucoup de généticiens. C'est surtout que les spécialistes estiment pour le moment que le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle, quoi. Essayer de réparer avec ces ciseaux moléculaires une lésion génétique chez un embryon, alors que la plupart du temps, le diagnostic préimplantatoire permet de le reconnaître. C'est le diagnostic préimplantatoire. On regarde les embryons, on fait une petite analyse génétique et on voit si l'embryon est porteur ou pas de la
modification
de l'anomalie génétique. Voilà. Et on prend, on prend celui qui est sain, qui est en bonne santé, et on l'implante. Et ça, on sait très bien le faire. C'est de la routine, c'est une forme de routine. Il y a peu de risques, etc. Allez utiliser des ciseaux moléculaires pour aller retirer un petit bout d'ADN sans savoir trop si on va retirer le bon bout, c'est beaucoup, beaucoup plus hypothétique. Et pour le moment, il n'y a pas photo entre les deux techniques. Après, est-ce que l'homme a des fantasmes transhumanistes ? Ça, c'est évident. Est-ce qu'il voudra aller chercher une amélioration des générations futures via ce type de technique génétique ? Peut-être, mais on n'en est pas encore là.
Olivier Lascar, vous pensez qu'on entre effectivement dans une ère où la médicalisation de la procréation est acquise et où on entre vraiment de plein pied dans cette ère-là maintenant ?
Alors, je dirais qu'on est plutôt sur le seuil, plutôt. On n'a pas franchi la porte, parce que ça reste compliqué à faire tout ça, hein, comme le disait Sophie. Le cas qu'on évoque ici, qui consiste à enlever le noyau d'un ovocyte pour le mettre sur notre ovocyte, raconté comme ça, ça a un côté un peu légal. On enlève, on met. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Le noyau n'est pas un bloc solide qu'on peut facilement déplacer. C'est un gel. Pour faire cette opération-là, il y a des traitements chimiques. Les cellules sont soumises à des traumatismes physiques. Donc, cette équipe de New York y est parvenue. Tout le monde n'aura pas la technicité pour le faire dans la foulée. Donc c'est pour ça qu'on a sans doute un petit peu de temps devant nous, mais ça laisse le temps. Alors on peut reparler des politiques qui étaient évoquées tout à l'heure, c'est que ces dérives-là, elles ne pourront être contrées finalement. On ne peut pas simplement se résoudre à la bonne volonté des chercheurs. Il y aura toujours un petit Frankenstein quelque part qui aura envie de sortir ses bistouris pour essayer quelque chose qui n'a pas été fait ailleurs. Donc on ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc il faut un appareil législatif ad hoc qui permette de verrouiller. Et finalement, l'exemple de Zong, quelque part, il y a un aspect vertueux parce qu'il n'a pas pu le faire aux États-Unis. Alors il a filé au Mexique pour y arriver. C'est vrai que ça a un côté vraiment.
Oui, presque film d'espionnage.
C'est vrai. Mais voilà, c'est parce que les États-Unis ne le permettent pas à l'heure actuelle.
Mais alors justement, parlons, puisqu'on parle de législation, on le disait tout à l'heure, Sophie, la Grande-Bretagne, en la matière, s'est dotée d'une législation beaucoup plus souple, beaucoup plus permissive. En Grande-Bretagne, la gestation pour autrui est autorisée pour les couples hétérosexuels avec des problèmes de fertilité. Est-ce que, en France, sur ces questions-là, on a une position liée au principe de précaution, liée à plein d'autres questions? On voit que dès qu'on aborde des questions éthiques et des questions de procréation, là, dans le débat politique actuel, on voit bien où on en est, on voit bien qu'il y a l'ensemble du bloc politique qui est très fermé à l'idée d'avancer sur ces questions d'éthique. Sophie Coigne, il y a un problème culturel chez nous là-dessus.
Alors peut-être que culturellement on est un peu quand même différent des Anglais. On a une attitude plus prudente, mais qui n'empêche pas en tout cas la recherche de se faire, enfin pas dans tous les domaines. La recherche avance, les applications peut-être moins. On a des comités d'éthique qui réfléchissent assez sérieusement aux implications que peuvent avoir ces manipulations, surtout quand on n'a pas de recul.
Oui, Léo Grasset.
J'ai une question, c'est est-ce que notre appréhension des OGM, parce qu'en France on a quand même ce côté très particulier d'avoir très peur de l'OGM, de façon le truc de Frankenstein, de façon très générique, sans avoir vraiment une idée très précise de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Est-ce que ça peut pas vraiment ralentir en fait l'acceptation auprès du grand public de ces technologies-là, de ce genre de, surtout sur des humains en fait, autant sur la nourriture. Bon, à la limite, on pourrait imaginer des modifications, mais sur un humain, c'est vraiment notre identité. Donc,
ouais. Sophie.
Alors là, moi, je suis pas sûre. Moi, mon hypothèse, c'est que quand on touche à l'humain et en l'occurrence à la procréation, au fait de faire des enfants, etc., on touche encore un domaine différent. Là, on voit que on est en face, par exemple, d'un couple de Jordaniens. La mère a 49 ans. Elle a 49 ans, elle a été prête à utiliser une technique pas du tout sûre, pas du tout prouvée pour faire un petit garçon à 49 ans après avoir perdu deux filles. Faut voir l'élan vital pour avoir un enfant qui est de soi, avec son
ADN. C'est ce que disait Olivier Lascar tout à l'heure, hein, dès qu'on touche
à une espèce de pulsion qui va, là on le voit, au-delà de tout principe de précaution. Donc est-ce que les Français, dans ce cadre-là, réagiraient de la même manière que quand il s'agit d'OGM? Je ne sais pas.
Autre exemple, et puis on terminera avec ça. Mi-septembre, donc il y a 15 jours, des chercheurs ont fait naître des souris sans partir d'un ovule. Vous avez suivi ça à partir de parthénotes, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé des embryons. Vous avez suivi un peu cette histoire-là?
On l'a relayé notamment sur le site de Science et Avenir et dans le magazine. C'est aussi... on est dans le même domaine, hein, c'est assez vertigineux. Alors, c'est un modèle chez la souris, il y a loin d'un passage à l'homme, très très loin. Mais le principe même, l'évoquer comme vous venez de le faire, bon, ça tétanise un peu quand même. Hein.
Un dernier mot sur cette question. Est-ce que aujourd'hui, on peut, enfin, la question en fait que je voulais vous poser par rapport à la position de la France vis-à-vis d'un pays voisin comme la Grande-Bretagne, c'est est-ce que finalement, en adoptant la position la plus conservatrice, on ne se met pas de côté, non seulement en termes de recherche scientifique, mais est-ce qu'on, vous le disiez Sophie, est-ce qu'on ne pousse pas aussi les gens qui sont de toute façon prêts à le faire, à aller ailleurs, aller dans les pays où la législation est plus trouble, et finalement à ne pas être en mesure d'encadrer ce type d'expérimentation sur le sol par des équipes françaises qui permettraient également de faire avancer la recherche?
Moi je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez vertueux de mettre des garde-fous. On a quand même des gens très sérieux et extrêmement intéressants au comité d'éthique, comité de bioéthique, des philosophes, des biologistes, des immunologistes, des gens de différentes confessions religieuses, des hommes politiques, qu'on se mette des garde-fous qui, de toute façon, ne sont pas gravés dans le marbre non plus. Les lois évoluent, les opinions évoluent aussi en fonction de l'évolution de la société. Qu'on y aille lentement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Léo Grasset, vous partagez ce point de vue?
Non, j'étais en train de réfléchir au fait que finalement, ce qui allait peut-être plus décider du sort de cette technologie, c'est probablement moins les comités d'éthique, parce qu'à l'échelle mondiale, s'il y a quelque chose à tester, quelqu'un le fera, que ce soit en Chine ou en Mexique. Ouais. Mais ce sera peut-être plus les lois du marché, finalement. Si, comme comme
c'est pas beaucoup plus rassurant.
Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire si c'est vraiment trop coûteux d'avoir un enfant conçu sur mesure, alors peut-être que ça se fera pas.
Olivier Lascar.
Oh non, je crois que j'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce que Léo et Sophie viennent de dire. Hein. Je suis d'accord avec eux. Les garde-fous sont absolument nécessaires dans, sur des questions comme celle-là, mais c'est vrai que le business à la clé est tellement énorme. Ça représente une somme d'argent tellement conséquente qu'il faut vraiment faire attention.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et on fait un dernier tour de table, comme tous les 15 jours, pour savoir, selon vous, l'actualité importante, advenue ou à venir, l'actualité scientifique, qui vous a intéressé ou qu'il faut suivre, Sophie Kouan.
Eh bien, on a pas mal de missions à venir, notamment d'exploration du système solaire. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment les entreprises américaines, cette entreprise américaine qui a eu le feu vert pour aller sur la Lune, qui est une entreprise privée, est-ce qu'elle va réussir ou pas ? C'est à voir dans les quelques mois qui... dans les quelques mois qui viennent.
Donc on jette un œil à l'exploration spatiale.
On regarde vers le ciel.
Les grandes annonces d'Elon Musk, ça vous émeut en disant qu'il veut aller poser un village sur Mars, faire des allers-retours, envoyer des gens par centaines, tout ça?
Bah, l'humanité a besoin de rêver, hein. Elon Musk aussi, visiblement. Non, je suis plus intéressée par les résultats que ramènera ExoMars, par exemple.
Léo Grasset ?
Ce n'est pas tellement l'exploration du système solaire, ce serait plus l'exploration intérieure, avec justement CRISPR-Cas9, qui est cette fameuse protéine qui permet de découper le génome un peu où on veut. Mmh. Alors pas tant pour ce que ça peut faire sur les bébés du futur, mais plus comme outil d'exploration scientifique pour comprendre comment fonctionne le génome, parce qu'en découpant ici et là, on peut réussir à éteindre des zones, voir leur effet sur une cellule, etc. Et ça, en fait, c'est un outil scientifique qui vient d'arriver et qui est hyper intéressant. Il faut vraiment suivre ça de près. Ouais.
Et qui est déjà très répandu, on l'a dit, on en a parlé ici même dans la méthode scientifique. Et puis, on va surveiller, on le disait tout à l'heure, mais on va surveiller un petit cocorico, peut-être les prix Nobel la semaine prochaine. Ouais. On sait que Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna sont sur les rangs pour obtenir un prix Nobel pour ce CRISPR-Cas9. Olivier Lascar.
Oui, alors effectivement, la semaine qui vient, ça va être la semaine des Nobel, donc on peut ouvrir les paris, hein, peut-être CRISPR, peut-être le traitement contre l'hépatite C, puisque les scientifiques qui sont derrière ce traitement ont reçu le prix Lasker cette année, et le prix Lasker est communément présenté comme étant l'antichambre du Nobel. Mmh. Après, de façon beaucoup plus terre à terre, moi j'aurai un œil mercredi prochain sur une belle exposition qui s'ouvre au Muséum National d'Histoire Naturelle, une exposition sur les vélins. Les vélins, ce sont ces peaux de
jeunes veaux mort-nés.
Voilà.
Ça, c'est pour le côté rigolo.
Voilà, c'est ça. Sur lesquels des artistes du début du XVIIe siècle ont fait des représentations botanistes et animalières absolument extraordinaires. Alors, le muséum avait ça dans ses soutes, si je puis dire.
Dans ses collections. Ouais.
Ils en ont 7000, je crois. Alors, ils ont décidé d'en présenter quelques-unes au public à partir de mercredi. Ça n'a jamais été fait. Alors, ça devait ouvrir il y a quelques jours, ils ont eu un problème de clim. Et comme c'est des matériaux très fragiles, ils ont dû attendre que ça soit réparé.
Eh bien, on ira jeter un œil au Muséum d'Histoire Naturelle à ces vélins. Merci mille fois à tous les trois. À la une de Science et Avenir ce mois-ci, Olivier.
Alors,
un mot.
C'est l'antimatière. Un mot, l'antimatière. Alors, c'est une matière mystérieuse. On sait qu'elle existe, mais on ne sait pas où elle est.
Sophie, à la une de la recherche.
Les abeilles, on sait qu'elles disparaissent en masse, mais elles ont quand même les ressources en elles pour lutter contre certains de leurs fléaux.
Et Léo, la prochaine vidéo sur Dirty Biology.
Je viens d'en poster une il y a 2 heures sur la surpopulation et pourquoi le féminisme permet de régler nos problèmes environnementaux.
Sur Dirty Biology. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Léo Quentin, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Jacques Azubert, au droit d'auteur Jean-François Souvilly. un aperçu à ce qu'on vous a concocté dans la méthode scientifique pour la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons des avancées thérapeutiques dans la lutte contre le cancer. Mardi, il sera question de pollution atmosphérique. Mercredi, des voyages habités sur Mars. Jeudi, de la fraude dans la recherche et la science. Et vendredi, fiction avec les 50 ans de Star Trek et ce que l'univers de la série a apporté à la science. Dans un instant, le magazine de la rédaction préparé cette semaine par Véronique Rebérotte. Nous, on se retrouve lundi 16h, jusqu'à preuve du contraire.